Donc, il était une fois au Québec, c'est une expression, il était une fois qui généralement introduit les contes de fées. On n'est pas vraiment dans du conte de fées avec nos deux auteurs qui sont plutôt du côté du thriller, du polar et du sanglant. Pour vous présenter brièvement, Jacques Côté, vous écrivez depuis plus de 15 ans, hein, il me semble.
Un peu doublé.
Même, voilà. Depuis 30 ans.
Depuis
1988, premier roman. Vous avez publié de nombreux romans, dont notamment des romans policiers. Une série qui se passe dans les années 70 qui met en scène un enquêteur qui est Daniel Duval.
Oui.
Vous vous êtes intéressé aussi à Wilfried de Rome, qui est...
En effet, qui est le fondateur du premier laboratoire de sciences judiciaires en Amérique du Nord. J'ai écrit sa biographie. Il était complètement inconnu et puis je l'ai fait reconnaître, là.
Vous l'avez fait sortir de l'ombre et vous vous êtes beaucoup intéressé d'ailleurs à la science, à la criminologie, à la médecine légale. Vous avez fait beaucoup de recherches et vous avez publié récemment une nouvelle série, Les cahiers noirs de l'aliéniste, dans lequel vous mettez en scène Georges Villeneuve.
Exactement.
Qui a existé.
Oui, qui a été le professeur de Wilfried de Rome. Donc, il y a cette collection-là, cette connexion, pardon, de Rome-Villeneuve que j'ai voulu mettre en évidence. De Rome dans une biographie en bonne et due forme et Villeneuve dans une série de romans et plus tard dans une biographie quand j'aurai du temps.
Donc ça se passe au 19e siècle, ouais. Et dans le dernier tome notamment, on lit beaucoup de choses sur, on apprend beaucoup de choses sur les avortements clandestins au 19e siècle. Voilà. Patrick Sénécal, combien de livres avez-vous publié? Un certain nombre aussi.
Je crois que je suis rendu à 17. Si on inclut mes deux romans pour enfants, là, oui, ça ferait 17.
Vous avez écrit des romans pour enfants aussi. On a du mal à le croire.
C'est dur à croire, mais j'en ai écrit deux. Mais c'est des romans d'épouvante pour enfants.
Ah, quand même.
Mais bon,
vous épouvantez aussi les enfants.
Oui, aucun enfant ne meurt à coups d'hache, je vous rassure tout de suite.
Bon, vous explorez les limites de l'âme humaine. Vous explorez le voyeurisme, les pulsions. Récemment, vous avez publié Le Vide chez Fleuve Noir, qui met en scène. Alors, on ne va pas révéler, évidemment. En plus, c'est une construction très complexe. Mais on a d'abord un quadruple meurtre par une femme dans un appartement. Donc, quadruple meurtre qui va avoir des conséquences ensuite encore plus sanglantes qu'un simple quadruple meurtre. Ce serait beaucoup.
C'est banal, un
voilà, quadruple meurtre. Ce serait un peu décevant. Et parallèlement, une émission de télé-réalité. Vivre au max, qui flatte les pulsions les plus noires et les plus épouvantables chez
les moins glorieuses.
Voilà, les moins glorieuses, avec la possibilité dans cette émission, et finalement on n'est pas très loin de la réalité, hein, de se livrer à ses rêves les plus fous et les plus dégoûtants.
Ouais.
Voilà. Vous avez publié aussi récemment Elle.com, on est un peu dans la même veine aussi, hein, on est là dans aussi un rapport de classe, hein, c'est les VIP, les puissants du monde, ouais. Qui ont leur site internet, et ce site internet est inspiré quoi, des snuff movies
En fait, c'est un site internet illégal qui s'adresse aux grands riches parce que ça coûte 500 000 $ à être membre, donc l'équivalent en euros de, je sais pas moi, peut-être 300 000 €, quelque chose comme ça. C'est un site illégal, mais tout est permis sur ce site. Alors, on peut tuer des gens, on peut torturer des gens, on peut avoir des esclaves sexuels. Alors, c'est vraiment toutes les pulsions réunies sur un site.
Mmh. Ouais. Donc, on est vraiment en train d'explorer...
J'ose espérer que ça n'existe pas.
J'ose espérer aussi, ouais. Mais il paraît qu'il existe le dark web. Hein, on en parle, ben oui. Et c'est cet endroit du net où on peut faire un peu n'importe quoi.
Exactement.
J'espère que c'est très cher et que personne ne peut se payer l'entrée de ce site.
J'espère aussi.
En tout cas, donc, voilà, on entre dans cette littérature québécoise. J'ai oublié aussi de dire que vous enseignez tous les deux la littérature. Hein, c'est
maintenant, je n'enseigne plus. Moi, depuis 2007, je suis à l'écriture.
Vous êtes à l'écriture simplement. Vous avez tous les deux une expérience d'enseignement quand même.
Oui, moi, j'alterne l'enseignement et l'écriture. Mm. Donc, je suis toujours professeur de littérature. Mais je prends des congés pour écrire.
Bon, ouais. Très bien. Je vais commencer par une question peut-être un peu générale, puisqu'on parle du Québec. Moi, je ne connais pas le Québec, j'y suis jamais allée. Je ne sais pas si...
On y va, là, on est en route. Vous ne saviez pas, mais...
La troisième dimension,
oui,
ça va.
Est-ce que vous vous sentez une particularité québécoise? Est-ce que vous sentez écrivain québécois? Est-ce qu'il y a quelque chose, une école particulière ou un courant auquel vous auriez la sensation d'appartenir? Ou est-ce que c'est sans importance d'être québécois quand on écrit?
Je pense qu'on est québécois malgré nous. Je ne crois pas qu'on se pose la question si on est un écrivain québécois. Je ne pense pas qu'un Français se demande s'il est un écrivain français. Ou je pense qu'on l'est par la force des choses, à moins d'être complètement comment dire, être complètement envahi par la littérature étrangère qu'on lit, mais je sais que moi, quand j'ai écrit mon premier roman, 51-50 rue des Hommes, en 94, il n'y avait pas beaucoup de romans de ce type-là au Québec. Là. Il y avait des romans policiers, mais du roman noir, glauque, un peu horreur, tout ça. C'était pas, il n'y en avait pas vraiment. Et ce qui était intéressant, ce que les gens me disaient qu'ils trouvaient intéressant, c'était justement qu'on peut enfin voir des trucs comme ça, mais qui se passent au Québec. Donc, il y avait une influence de littérature nord-américaine, ça c'est clair. Je suis quelqu'un qui aimait Stephen King et tout ça. Mais je crois que malgré tout, il y a une façon à nous de la raconter. Mais quelle est cette façon-là? Je saurais pas dire. Il y a le langage, évidemment. Il y a la langue qui est très particulière dans les dialogues, surtout, bon, qui nous appartient. Mais sinon, peut-être... Il y a déjà des gens qui nous ont dit que nos trailers, nos livres noirs sont très pessimistes. Je sais pas si c'est vrai. Les miens le sont beaucoup, en tout cas. Est-ce que c'est propre au Québec, ce pessimisme-là, alors que souvent, la littérature... Le roman noir américain finit de façon un peu plus souvent hollywoodienne, où les méchants sont capturés, bon, tout ça, ce qui n'est pas souvent le cas des miens. En fait, le mien, il n'y a pas vraiment de méchants ou de héros. Tout le monde est un peu tout. Tout le monde est un peu mélangé. Donc, est-ce que c'est une particularité du roman québécois? Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Mais je ne me dis pas quand j'écris, bon, qu'est-ce que je dois faire pour être un romancier québécois? Ça, c'est pas une question que je pense qu'on se pose ni l'un ni l'autre.
En avoir un autre. Ouais. Tiens.
On va y arriver.
Un, deux. Merci. Non, je ne me pose pas cette question-là. Je suis un écrivain québécois, mais beaucoup plus québécois que canadien. Et tout à l'heure, c'est drôle, au salon, j'ai une lectrice qui vient avec deux amis et on parlait de littérature québécoise et elle dit, alors moi, je suis... canadienne. Tu sais, elle me dit, je viens de l'Ontario, je me considère canadienne. Je dis, ben, moi, je suis québécois. Et elle n'a pas aimé, là. Elle, ben, mais je dis, tant mieux pour vous. Vous pouvez être fière d'être ontarienne et canadienne. Moi, je suis un québécois. Mais ça passe mal lorsqu'on leur dit ça, parce qu'il faudrait être tous de fiers canadiens. Je dis, on a déjà été canadiens à une autre époque. C'est vrai, on était de vrais canadiens, des canadiens dans le sens où... on avait développé le Canada, puis ensuite, il y a un colonisateur qui est venu, qui a usurpé, il était britannique, il est devenu canadien. Pour se distinguer, on est devenu canadien-français. Ensuite, on est devenu québécois, il a pris notre hymne national, il a traduit. On s'est fait usurper beaucoup de symboles et moi, j'assume pleinement, pas au plan politique, il n'y a pas de politique dans mes romans, mais ce titre-là d'écrivain québécois. Je suis québécois et pas canadien.
Et là, vous savez, bon, là tu as un discours comme ça parce que toi, nous deux, on est deux nationalistes, on est deux même indépendantistes. Mais vous savez qu'au Québec, il y a des Québécois qui ne le sont pas du tout. Alors, il y aurait des Québécois ici qui nous écouteraient. Il y en a qui feraient ça. Là, ils feraient, bah, Jacques, t'exagères un peu. Mais même ces Québécois-là, même les Québécois fédéralistes, c'est sûr qu'avant tout, ils se sentent Québécois malgré tout. Ça, je pense que oui. On aime ça au Québec, dire « Ah, vous êtes Canadien, Québécois ». Cette distinction-là, pour nous, est assez importante. Ouais.
Alors là, moi, je découvre un peu ça. Hein. Je suis jamais allée, donc on n'est pas au fait. En tout cas, nous, ça ne nous dérange pas que vous soyez Canadien ou Québécois. On vous lira exactement. Et on vous a lu.
Si vous aviez des Canadiens devant vous, ils parleraient en anglais.
Eh ben, alors justement, j'allais vous le dire, dans vos livres, les dialogues sont intéressants, vous le disiez tout à l'heure, puisqu'ils sont parsemés d'expressions anglaises. Hein. Les gens parlent français, puis il y a des « fucking cow ».
Des anglicismes, oui.
Voilà, des anglicismes, notamment quand les gens s'énervent. Ça, c'est particulier aux Québécois, les gens s'expriment vraiment comme ça.
Oui, en France aussi, il y a beaucoup d'anglicismes, hein, en passant.
Oui, mais on ne fait pas des morceaux de phrases en anglais, je crois
non,
pas.
Non, au complet, là, non. Ben, on n'en fait pas tant que ça non plus. Ouais.
On va avoir des calques de l'anglais encore, des calques de syntaxe qui proviennent de l'anglais. Oui. Mais je vous dirais qu'on va utiliser même moins de mots anglais, on l'avait dit à Lyon, qu'en France. On trouve que les Français utilisent beaucoup plus d'anglais que nous dans l'affichage commercial et même dans les termes, certains termes comme le texte. Nous, on va utiliser le mot texto. On va utiliser le terme courriel, des mots qui ont été inventés au Québec parce qu'on voulait participer à cette francophonie-là, lui donner notre apport spécifique. Et de cette manière, je crois qu'on a contribué dans les 30-35 dernières années à l'amélioration du français. Mais c'est clair qu'il restera toujours des
La syntaxe, ouais. Comme tu dis, on a une syntaxe parfois un peu déficiente. Ouais. Le mot fuck, on l'emploie beaucoup.
Ah là là.
Effectivement. Oui. Ça, fuck, c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Ouais. Mais on a nos patois à nous, hein, nos fameux patois religieux. Là. Ça, c'est typiquement québécois, là. Ça, c'est sûr. Ouais. Les jeunes, moi, j'ai deux adolescents, puis parfois, eux, je trouve qu'ils parlent beaucoup, ils mêlent beaucoup l'anglais, les jeunes, maintenant. Je ne sais pas, les tiens, là. Puis ça, moi, personnellement, ça m'inquiète un peu. Je trouve que nos jeunes au Québec ont comme une espèce de... L'anglais, français, bof, ça ils s'en foutent un peu. Puis cette fibre nationaliste-là qu'on a, nous, et qu'on avait quand on était jeunes. Ouais. Moi, je me rappelle, quand j'avais 17-18 ans, on revendiquait le Québec indépendant et tout ça. Les jeunes au Québec, en ce moment, c'est pas gagné.
Mais justement, je rebondis sur les jeunes, vous en parlez. Enfin, ils sont très présents dans vos romans. En tout cas, on a des adolescents dans les deux derniers et des adolescents qui sont face à un modèle de société qui est préoccupant. En tout cas, c'est ce qu'on se dit quand on lit vos livres. Hein.
Oui, peut-être que c'est ça qui ressort, mais au moment que je les ai écrits, moi, j'avais mon fils vieillissait, ma fille vieillissait. C'était des enfants qui vieillissaient et j'avais, comme tous les parents, la peur d'être un mauvais parent. Et je pense que c'est cette peur-là qui est traduite dans ce que vous dites. Parce que dans les deux cas, le père est un très mauvais père. Et c'est ma peur d'être un mauvais père. Et je crois que dans beaucoup de mes romans, Jacques, je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y a beaucoup de mes peurs. Écrire, pour moi, c'est une façon de négocier mes peurs. C'est une façon de faire face à certaines de mes peurs. Et là, tout à coup, je pense que malgré moi, d'avoir mis des adolescents comme ça, qu'il leur arrive des choses terribles, ben, c'est une façon de conjurer le sort, une façon de dire « je ne peux pas être aussi pire que c'est... Je ne peux pas être aussi mauvais que ce père-là, c'est pas possible. Je vais être mieux quand même. » D'autres de mes romans comme ça, qui ont des... Les 7 jours du Talion, par exemple, qui est un roman où le père, sa fille de 8 ans, se fait violer et tuer, il décide de se venger. Mais bon, il se rend compte que la vengeance est quelque chose de pas si simple, finalement, et qui apporte pas beaucoup de satisfaction. Mais j'ai écrit ce roman-là à la naissance de ma fille. Parce que comme tout bon papa qui a une fille, on est très inquiet pour nos filles. Hein, les pères, les garçons veulent « Ah, les gars, vas-y, t'es capable. » Mais les filles, on n'aime pas ça, voir notre fille sortir toute seule. Puis, parce qu'on est un homme, on connaît les gars, on sait comment ça peut être con, un gars.
Puis il y en a plusieurs à surveiller dans nos vies.
Oui, c'est ça, exactement. Il y avait une bonne blague là-dessus. C'est quand t'as un gars... T'as un gars à surveiller. Mais quand t'as une fille, t'as 1000 gars à surveiller. T'sais? Et c'est un peu comme ça que je me sentais.
Il y a toutes sortes de variations autour de cette blague-là.
Oui, c'est ça.
On n'ira pas plus loin.
Alors, je pense que c'est plus cette... la société, oui, une espèce de société... Bon, dans Hell.com, c'est une société où Internet permet tout. Et je pense que nos jeunes, effectivement, devant Internet, devant les médias sociaux, je pense qu'ils ont des choix très difficiles à faire. Je pense que cette liberté-là, en apparence, qu'on leur offre, peut être extrêmement... lourde et difficile à supporter. Moi, je pense que c'est plus difficile d'être un jeune de 15 ans maintenant que quand moi, j'avais 15 ans. À cause de tout ça, là, cette pression-là des médias sociaux, du paraître, de se mettre de l'avant, de répondre à des attentes, d'être une vedette d'un jour. Bon, après, tout ce que tu fais peut se retrouver sur Internet. Moi, je suis très content que Internet n'existait pas quand j'avais 15-16 ans.
Et de savoir aussi qu'ils peuvent aller visionner des affaires horribles, là, que... On a beau mettre un filtre parental, mais de savoir que nos enfants peuvent aller voir ce qu'a fait Luca Rocco Magnotta, là, tout ça a été filmé. Et moi, ça
c'était
dérange,
le fameux
qui a filmé son meurtre, oui. Et qui a filmé l'homme qui l'a découpé. Là, on a tout vu.
Il y avait des relations sexuelles avec les membres du corps. Ça a été tout filmé et mis sur Internet. Là.
C'est quand même inquiétant. Nous, on écrit sur ces phénomènes-là. Mais on ne souhaite pas, justement, et on ne va pas commencer à aller espionner ce que font nos enfants, mais on sait que tout est accessible, tout est là. Quelle influence ça peut avoir sur leur développement alors que nous, on essaie d'être des bons pères, de bien éduquer nos enfants, et alors que tu as des sources d'informations ou des sources qui peuvent les rendre, les perturber. Là. Moi, c'est mon inquiétude. Mais je suis content quand mes enfants regardent des mangas. Là. Ça me rassure. Là. Je me dis, bon,
les mangas, ça peut être corsé aussi. Hein?
Oui, mais j'aime mieux ça que des affaires plus crues encore. Mm. Mais
je pense que quand c'est de la fiction, c'est pas pareil. Ouais. Pour moi, il y a une... toute la différence est là. Regardez la fiction et regardez la réalité. Moi, regarder des films d'horreur qui sont faux, je pense qu'il peut même avoir un effet de catharsis là-dedans qui est intéressant. Mais la fascination pour la vraie violence, pour aller voir des vrais cadavres. Moi, la vidéo de Magnotta, je ne suis pas allé le voir. Là. Il y a beaucoup de médias au Québec qui m'appelaient quand c'est arrivé, qui m'ont dit « Hey, Patrick Sénécal, l'auteur d'horreur, de... j'imagine que vous avez écouté ça, pouvez-vous venir en parler en ondes? » J'ai dit « Mais non, j'ai pas été regardé. » Il me disait « Mais comment ça se fait que vous n'êtes pas allé regarder ça? Ça vous intéresse? » Ben, j'ai dit « Non, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai pas envie de voir un être humain se faire découper en morceaux. J'ai pas envie de participer à ça. C'est pour moi la fiction... Et la réalité, ça, toute la différence est là.
Et on le voit d'ailleurs dans cette scène où, alors je ne veux pas du tout raconter l'histoire aux lecteurs qui vont acheter ce livre, mais quand même, il y a un moment où la frontière est franchie par le personnage, oui. Et où il se trouve face à l'écran de son ordinateur et à des scènes qui sont diffusées. Il se rend compte que ce n'est pas truqué, oui. Que c'est en train de se passer. Et vous décrivez très bien ce sentiment de... On sent le basculement,
oh, oui,
on n'est plus devant quelque chose, des effets spéciaux. C'est en train de se passer et là, il y a quelque chose qui se... Le sol qui s'ouvre un peu, ouais. Sous ses pieds. Hein.
Il va même se rendre compte à un moment donné que certaines scènes se passent à cause de lui, qu'il a voulu que ça se passe.
Moi, j'osais pas le dire.
Et ça bouleverse. Ouais, mais bon, il y a tellement d'autres choses que c'est pas grave.
Jacques Côté, est-ce que vous écrivez aussi pour cette dimension cathartique, cette façon de tenir l'angoisse à distance, vos propres angoisses?
Ben, y en a une que j'ai apaisée, sans entrer dans les détails, c'était la peur de la mort. À partir de l'âge de 5 ans, quand je me suis rendu compte que j'étais mortel, lors des funérailles d'une de mes tantes, ça a été vraiment très, très dur à prendre, là, que j'allais mourir. Et puis, à l'adolescence, j'ai travaillé dans une station de service où, pendant une année, il y a eu un corbillard à vendre. Et sincèrement, je n'avais pas passé, je me tenais le plus loin possible de ce véhicule-là. Et pour ma grande malchance, à 15 ans, je faisais du ski, je me suis blessé. Et c'était l'époque où les ambulances en Amérique, c'était des corbillards, c'était des Cadillacs. Et quand j'ai vu que j'allais monter dans ce véhicule-là, j'étais blessé. Ah, je ne voulais pas, je ne voulais tellement pas monter. Donc, d'une certaine manière, oui, parce que j'ai beaucoup abordé la question de la mort dans mes livres. C'est vraiment très important. Et est-ce que c'est... Puis, mais maintenant, je te dirais que c'est une dimension qui est tout à fait apaisée. C'est pas... quelque chose qui m'inquiète. C'est omniprésent. J'essaie de la présenter de la manière la plus professionnelle, c'est-à-dire parce que j'ai des personnages qui sont des gens qui travaillent dans des labos de sciences judiciaires. Donc, j'essaie de documenter pour que ça soit le plus précis possible. Mais sinon, non, ça ne m'affecte pas plus que ça maintenant.
Oui, donc justement, j'allais en parler. Il y a une vraie dimension documentaire et recherche documentaire, évidemment, dans ce que vous écrivez, notamment sur la médecine légale et toute cette trilogie que vous avez écrite. Comment vous faites, vous?
Ben, c'est venu un peu, cette déformation professionnelle. Quand j'ai écrit la biographie du docteur de Rome, parce que j'avais été chanceux, le journal La Presse organisait un concours de faire connaître un pionnier québécois dans un peu importe le domaine. Et puis, il fallait présenter un chapitre. Et je me suis dit, écoute, je vais l'essayer. Et j'avais découvert ce personnage-là qui avait fondé le premier laboratoire de médecine légale et de police technique en Amérique du Nord. Et les Américains sont venus après à Montréal. Et je me suis dit, écoute, on a complètement oublié ce médecin-là qui est important. Moi, je vais le faire connaître. Peu importe si je remporte le prix ou non. Et j'ai eu la chance, j'ai remporté le prix. Pendant une année, j'ai pu fouiller les fonds d'archives un peu partout au Québec et me rendre compte que c'est un domaine qui me fascinait, les sciences. Montrer l'apport, justement, du laboratoire de Montréal en Amérique du Nord. Le lien entre Montréal et Paris aussi, parce que tous ces médecins-là, dont Georges Villeneuve, qui a été le professeur de Durham, lui a été étudié en 1889 à Paris, la médecine légale des aliénés, mais aussi la médecine à la morgue, l'entomologie légale appliquée. L'entomologie est appliquée à la médecine légale. Écoute, c'était déjà long, on est en 1889. Il revient à Montréal, il applique ça, on a un protocole très clair, essaie d'avoir ce premier balbutiement, je vous dirais, de la police scientifique chez nous, puis en Amérique du Nord. Et par la suite, l'enseignement, former les policiers. Puis celui qui va fonder le laboratoire, bien, c'est son élève. Lui n'a pas été capable de le faire. Les gouvernements ne voulaient plus investir de l'argent, même dans une morgue. La morgue de Montréal était dans un état lamentable. Imaginez, pour amener les cadavres, on faisait les autopsies à l'étage, donc une maison mansardée. Imaginez, on fait ça dans un endroit qui est aéré. Là, il fallait monter le cadavre à bras d'homme sur une échelle. Et Villeneuve racontait, c'était fréquent que le porteur, l'homme de main, échappe le cadavre dans l'escalier, puis il était en état de rigidité, il ne réussissait pas à le passer. Et ça a été très, très dur pour lui. Il a réussi à faire des choses importantes, mais c'est son élève, Wilfrid de Rome, qui a tout fait par la suite. Mais Villeneuve lui a ouvert le chemin. Donc, moi, j'ai voulu documenter ça. Je vous dirais, comme un écrivain, ça m'a ça m'a plu. Écrire une biographie, c'est très différent que de faire un roman, mais j'ai essayé de faire en sorte que la biographie se lise comme un roman, parce que la documentation que j'ai trouvé toutes les scènes de crime du docteur Durham, il les documentait, c'était live, il arrivait sur une scène de crime, il écrivait « j'arrivais à telle heure avec telle personne », et il écrit la scène. Donc, c'était comme un rendu 75 ans plus tard, très précis de ce qu'il faisait. Donc, pour moi, comme écrivain, c'était intéressant, parce que je fais de la littérature réaliste, de pouvoir rendre ça. Donc, l'autre série est, elle aussi, très différente. C'est la médecine de la fin du 19e siècle. Ce n'est pas du tout celle du début du 20e siècle, des années 10, 14, 20. Ça évolue tellement vite, là. Donc, c'est un domaine que j'ai voulu présenter et que j'ai exploité par la suite dans cette série-là. Donc, une biographie qui m'a ouvert la porte sur autre chose.
Et vous continuez de suivre les progrès de la médecine légale? C'est encore en progression aujourd'hui?
Le laboratoire a fêté son 100e anniversaire en 2014, puis ils m'ont demandé de documenter leur centenaire, donc des conférences, mais aussi un livre. Ils m'ont payé pour écrire un livre, et le livre va sortir au printemps prochain. Je devrais l'avoir à Genève en 2017. L'histoire de la police scientifique et de la médecine légale au Québec, avec des histoires, mais abracadabrantes. Comme un romancier, tu dis, j'aurais jamais pu penser à ça, et les gens n'auront pas le choix que d'y croire, parce que c'était la réalité. Des fois, vraiment, là, la réalité, ça dépasse tellement la fiction. Histoire incroyable.
Donc, justement, là, en parlant de réalité qui dépasse la fiction, vous avez écrit Le Vide, donc sur la télé-réalité. En quelle année?
Le roman, bon, là, on vient de le publier en France, mais il est sorti au Québec en 2007.
Et depuis, il y a eu des...
Ça ne s'est pas beaucoup amélioré,
Est-ce que vous avez un peu l'impression d'avoir documenté à l'avance la télé-réalité? Il y a eu des morts quand même, entre-temps.
Oui, il y a eu des morts, ça c'est vrai. En fait, moi, j'ai écrit ce roman-là parce que, justement, la télé-réalité commençait à avoir un certain succès en 2007. Et j'écoutais des émissions comme des émissions qu'on a chez nous, que vous aviez ici aussi, de Le Loft, par exemple. Vous vous rappelez de ces émissions-là? Bon,
Loft Story.
Ça s'appelait Loft Story, c'est ça? Bon. Au Québec, c'était juste Le Loft. Et il y avait aussi des émissions, là, je ne me rappelle plus, mais je pense que ça s'appelait Fear Factor, où que les gens doivent manger des vers de terre ou doivent bouffer des coquerelles ou des trucs complètement imbéciles. Et j'écoutais ça avec ma blonde et on se disait... moi, j'étais fâché, j'étais choqué. J'ai dit, c'est épouvantable, c'est vraiment con comme émission. Je peux pas croire que l'être humain s'abaisse à des conneries comme ça. Et j'arrêtais pas de gueuler, de chialer, comme on dit chez nous. Et à un moment donné, ma blonde a dit, bon, arrête de chialer, puis écris là-dessus. Prends ta colère et fais quelque chose avec ça. Et c'est un des meilleurs conseils qu'elle m'a donné dans ma vie. Et là, j'ai voulu me servir de la télé-réalité, en fait, pour montrer une espèce de vide de société. Pour moi, la télé-réalité, dans mon roman, est un symptôme de quelque chose. Je veux dire, si les gens s'intéressent tant à ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui les allume. C'est parce que c'est représentatif d'un vide. On n'a pas de projet collectif. On n'a pas, il n'y a rien qui nous stimule. Comme société, on s'ennuie. Je pense que l'ennui provoque beaucoup de choses. Et la télé-réalité, là-dedans, est le symptôme de ça. Alors, malheureusement, depuis 2007, ça ne s'est pas beaucoup amélioré. Je n'avais pas la prétention de changer les choses. De toute façon, je pense qu'un écrivain qui a la prétention de changer les choses, c'est extrêmement ambitieux, prétentieux et dangereux, parce que dans les faits, on ne change pas grand-chose. Mais moi, ça m'a fait du bien de sortir ce fiel-là. Et il y a beaucoup de lecteurs qui me disent que leur propre colère qu'ils ressentaient, ils l'ont bien canalisée dans le roman. Mais la télé-réalité, malheureusement, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et il y a même des télé-réalités maintenant qui font que même en 2007, je n'aurais pas pu croire qu'ils le feraient. Par exemple, cette série américaine où... t'as une super belle fille, là, une super modèle, là, une super, et qui t'as 8 ou 9 nains, des nains, et ils doivent tous essayer de courtiser la fille, et la fille doit choisir un nain à la fin de la série. C'est quand même assez ignoble. C'est quand même... Il n'y a plus beaucoup de dignité humaine là-dedans. Ça ne s'arrange pas.
Ça rappelle les cirques, hein, une certaine
époque.
Il
y a quelque chose du freak show là-dedans. Absolument. Tout à fait. Et il y a eu des morts, comme tu dis. Il y a certaines émissions. Au Japon, entre autres, il y a eu des télé-réalités durant lesquelles des gens sont morts. Et dans mon roman, il y en a un qui meurt à un moment donné. Et ça fait un scandale terrible. Aujourd'hui, ça fait partie des risques, il semble-t-il. Dans certains pays, en tout cas.
Et il y a une phrase qui m'a interpellée que prononce le producteur de l'émission et l'animateur. C'est, il dit à ses téléspectateurs, les bien-pensants, les intellos ont essayé de nous arrêter, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc finalement, vous vous rangez du côté des bien-pensants et des intellos, heureusement.
Ben oui, mais en plus, ben c'est du populisme qu'utilise le producteur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort au Québec. Il y a un courant anti-intellectuel au Québec qui est assez fort. C'est très louche d'être un intellectuel au Québec. C'est un peu ringard, c'est un peu snob. Oui, c'est ça. Si des gens se mettent à avoir une pensée cohérente à la télévision, dans les journaux, on va dire « Ah, il nous fait chier, lui, l'intello, tout ça. » Et ça, c'est extrêmement agaçant. Et le populisme au Québec est très, 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 très fort.
Notamment à la radio, on a, surtout à Québec, ce qu'on appelle la radio poubelle, la radio parlée, qu'on a renommée radio poubelle, avec des animateurs le matin qui sont démagogues, populistes, qui sont payés extrêmement cher, pour dire les pires bêtises. Et les gens y croient. Mais nos étudiants, moi, mes élèves, écoutent cette radio-là. Les jeunes, ils sont très influencés et ils adhèrent à ce discours-là. On a vu... Je ne veux pas en faire un débat gauche-droite, mais on a vu rapidement nos jeunes à Québec, là, qui est une ville plus conservatrice, passer un peu du centre, centre-gauche, à une position politique qui est vraiment à droite, très, très à droite. Et ce sont des émissions, notamment avec des exploits complètement ridicules. Il y avait une des émissions les plus populaires le matin. Pas l'animateur principal, mais un de ses collaborateurs avait décidé qu'il était prêt à boire le sperme d'un quelqu'un qui écoutait l'émission. Là. Il dit, moi, je suis prêt à boire le sperme. Apportez-moi du sperme et je vais le boire. Mais c'est ça, ça revient exactement à ce que tu dis. Mais là, à la radio, là, c'est complètement dégradant.
Ça existe ça en Europe, des radios comme ça?
Alors, on a Cyril Hanouna, nous, hein, en France. qui met des pattes un peu dans le slip de ses animateurs.
Ah ben, c'est ça.
Ouais. Des nouilles.
Puis il y avait aussi d'offrir à des femmes des prothèses de mammaires aussi.
Gratuites.
Là. Donc, évidemment, il fallait qu'elles se présentent en studio, qu'elles montrent leur sein, puis faisaient un choix. On a ça, c'est la radio à Québec, c'est la réalité. Et si tu oses te prononcer contre... Moi, ils m'appelaient souvent, j'écrivais des articles dans les journaux, des articles, évidemment, qui ne faisaient pas l'affaire, qui parlaient pas... Je critiquais pas la radio poubelle, mais je parlais justement de certains projets à Québec qu'on ne devrait pas renommer tel endroit à cause d'un ex-maire qui a été vraiment quelqu'un qui ne mérite pas, l'ancien maire de Québec, d'avoir une place à son nom. J'ai écrit un long texte. Il n'a jamais eu sa place. Puis ils m'en ont voulu. Ils me téléphonaient le matin pour dire, monsieur, je voudrais vous parler. Pouvez-vous le rappeler? Puis je disais toujours la même chose. Moi, je ne m'adresse pas aux animateurs de la radio poubelle de Québec. Là.
Ceci dit, il y a beaucoup de radios autres aussi qui critiquent ça, qui dénoncent ça. Là. Faut pas vous penser que si vous arrivez au Québec, vous allez n'entendre que des horreurs comme ça à la radio. Là. Mais il y a les deux. Il y a les deux, c'est ça.
Ben, le matin à Québec.
À Québec, oui. Québec, c'est particulier.
Oui. À part deux stations, c'est ce que vous allez entendre.
Ouais.
Vous disiez que vos romans, vos thrillers se terminent de façon assez pessimiste, contrairement aux thrillers américains ou par exemple norvégiens ou nordiques. Mais vous êtes vous-même un petit peu pessimiste quand on vous entend parler, non, sur votre culture et votre société?
Oui, un peu. Ben, je ne suis pas très optimiste sur la société en général. Je trouve, je ne suis pas très... Je ne veux pas tomber non plus dans le... Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup de raisons de croire en ce moment que tout va bien aller. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qui nous permet de croire ça. Il y en a qui me répliquent, mais ça a toujours été comme ça, Patrick, ça a toujours été comme ça. Oui, mais la différence, c'est que maintenant, on a les moyens intellectuels, technologiques, de comprendre ça et d'arrêter ça. Et pourtant, ça n'arrête pas. Il y a 200-300 ans... on n'était pas évolué comme maintenant par rapport à la morale, à la pensée, à l'éthique et tout ça. Maintenant, il n'y a pas de raison qu'on accepte encore tout ce qui se passe et on continue de l'accepter quand même. Et ça, moi, je trouve ça plutôt pas très encourageant. Ceci dit, moi, j'aime la vie, j'adore mes enfants, j'adore ma blonde, mes amis, tout ça. Je pense que la vie vaut la peine et tout ça, mais quand je pense à mes enfants et les enfants de mes enfants, je ne suis pas très... L'être humain tout seul est intéressant. L'être humain collectivement il peut être très, très égoïste et penser à son petit confort et à ses... Alors non, je ne suis pas un grand optimiste. Mais je ne suis pas un...
je sais pas à quoi bon la vie, allons-nous tuer, je sais pas comme ça. Dans mon roman, justement, le vide, au début, ça devait finir totalement pessimiste. Et je me suis dit, je peux pas faire ça parce que si je finis un roman en disant que la vie, c'est de la merde et aussi bien aller se lancer en bas d'un pont, ben, faut que je sois cohérent et je vais le faire. Et je le fais pas. Donc, quelque part, c'est parce que je pense que ça vaut la peine quelque part. Et donc, j'ai mis quand même une petite lueur d'espoir à la fin du roman. Elle est grosse comme ça, mais bon, elle est quand même là. Alors que j'entends des écrivains parfois dire en entrevue qui se complaisent beaucoup dans un... j'écris ce roman, je n'aurais jamais dû l'écrire parce que ça vaut pas la peine, et puis à quoi bon, et la vie c'est de la merde. Et après ça, ils vont dans les cocktails, puis ils vont célébrer leur roman avec... Ça me fait un peu rigoler. Je me dis, finalement, la vie c'est pas si mal. Hein? Ouais. Bon, fait que je veux être cohérent aussi avec... oui, je suis pessimiste sur l'humanité, mais la vie doit triompher malgré tout. Voilà.
Jacques Côté, vous qui avez fouillé dans les archives, qui avez écrit sur des parties précises du 19e siècle, des événements précis, est-ce que vous partagez ce point de vue sur peut-être une progression ou le contraire d'une progression sociale?
Je crois qu'on est collectivement en pleine régression. Je vous dirais, je vais vous parler peut-être d'un projet qui le démontre très bien. On veut construire un oléoduc au Québec qui va traverser 700 cours d'eau. C'est le projet de TransCanada. Et nous sommes collectivement contre le projet au Québec. On ne veut pas avoir ces énergies fossiles qui nous viennent de l'Alberta. Ce projet-là avait été refusé par les Américains. C'est le projet Keystone. Obama avait dit non. Les gens du Nord Dakota n'en voulaient pas non plus. La Colombie-Britannique a dit non à ce projet. Et nous, le Québec, on dit non, mais... on semble qu'on veut nous le passer quand même. Il y a des lobbyistes qui semblent vouloir nous passer ce projet-là, qui met vraiment en péril notre environnement. Tu as une population qui dit non, et là, tu as une commission qui est complètement bidon, avec des commissaires qui ont rencontré l'ancien premier ministre Jean Charest, qui a des liens, qui est le porte-parole de la compagnie TransCanada. Et cette commission, l'Office national de l'énergie, qui devrait être complètement neutre, ne l'est pas du tout, parce que les deux commissaires ont rencontré Jean Charest, qui est notre ancien premier ministre, qui est un des lobbyistes engagés par TransCanada. Donc, c'est une commission bidon. Et lorsque je regarde ça, on peut corriger présentement un problème très grave, c'est-à-dire éliminer les sables bitumineux. Et moi, lorsqu'il y a eu l'incendie de Fort McMurray, j'étais triste pour les gens qui perdirent leur maison, mais je me disais, vous l'avez cherché. Vous êtes des gens qui contribuaient à la détérioration de l'environnement sur la planète. C'est un des endroits qui produit le plus de gaz à effet de serre sur la planète. Ça me faisait de la peine, mais c'est comme si je me disais, la nature, à un moment donné, peut-être qu'elle réagit, qu'elle se dit, bien là, c'est assez. Et je me dis, bien écoute, si c'est la nature, c'est ce qu'elle a voulu, elle a bien fait. Il n'y a pas eu de mort, heureusement. Les gens vont pouvoir être relocalisés, peut-être même à Fort McMurray, mais eux, ils veulent reprendre justement l'exploitation pétrolière des sables bitumineux et le faire passer par chez nous. Et là, nous, on va s'opposer. Mais s'ils décidaient de le passer malgré un consensus social, moi, j'ai écrit un... D'ailleurs, au printemps dernier, on devait présenter nos mémoires. Ils nous ont appelés pour dire « Non, non, c'est reporté. On décide qu'on reporte vos mémoires. J'avais une date. On allait les présenter. » Et là, j'avais allé le présenter... Le mémoire en octobre. C'est prévu pour octobre. On va être plusieurs. Ça se passe à Montréal. À Montréal, les audiences ont été annulées parce qu'il y a eu du brasse camarade la semaine passée. Des gens qui, je n'étais pas d'accord, ont interrompu ceux qui allaient faire des présentations, les Premières Nations, qui avaient des choses qui sont opposées. Les Premières Nations sont opposées à ce projet-là. Et nous aussi, on est opposés à ce projet. Et on ne doit pas nous le passer de force. Et moi, ma position sera de dire, si vous le faites, voilà ce qui arrivera. Et je sais que c'est ce qui va arriver. Ça me rappelle beaucoup, dans le deuxième roman que j'ai écrit, Le sang des prairies, lorsqu'on a voulu passer le chemin de fer, le transcanadien, là, et qu'on a tassé les Indiens parce qu'ils ne voulaient pas du chemin de fer transcanadien, ça passait sur leur territoire, et qu'on les a placés dans les réserves, traité numéro 6, 1885. Ça me fait penser drôlement à ça.
Mais c'est ça, en fait, excuse-moi de t'interrompre, mais le pessimisme vient de là, en fait. Je ne sais pas s'il y a le déclin, mais il y a une stagnation. Ouais. À l'époque, avec les Indiens, on peut toujours dire qu'on ne savait pas, on n'était pas au courant. Exactement. Autant. Mais aujourd'hui, on sait tout ça. Le projet qui veut passer, que tu dis qu'on est contre, ouais, ils savent toutes les conséquences. Mais on continue quand même, et ça, c'est à travers le monde, là, hein, c'est pas juste au Québec. Alors moi, c'est ça que je trouve très, très, très pessimiste, ouais, très déprimant. C'est qu'on sait beaucoup plus de choses, mais on continue à faire comme si de rien n'était.
Et ça, c'est désespérant. Puis ça, c'est clair que ça nourrit un pessimisme. Puis je suis comme Patrick, on a des vies intéressantes, on écrit des romans, on est chanceux, on se le dit à chaque fois qu'on voyage, mais quelle chance on a, on rencontre des gens extraordinaires et puis ça nous rend heureux. Mais en même temps, quand nos enfants viennent me dire, papa, ma fille m'a dit cette semaine, les belugas sont vraiment en voie d'extinction. Ils le disent officiellement, ils sont en voie d'extinction. Il en reste à peu près 500-600 dans le fleuve. C'est un animal qui est magnifique. Et il y a d'autres espèces qui disparaissent à chaque jour. Lorsque mes enfants me parlent de ça, ça me fait de la peine. Je me dis, qu'est-ce que je peux leur répondre? Mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, moi, tout ce que je peux faire, là, c'est aller à l'Office national de l'énergie. Je vais être probablement le seul à avoir cette potion-là. Qu'est-ce qui va arriver si vous nous le passez? Il va y avoir une résistance passive, il va y avoir une résistance active et de l'action directe. C'est clair que ça va brasser. Il y a des gens qui sont prêts à la prison. Votre oléoduc, ça va prendre énormément de temps à construire parce que vous allez avoir des bâtons dans les roues à chaque étape. À chaque étape, ça va être difficile de le construire. Et on est rendu à un moment où il faut prendre cette position-là. Il faut désobéir. Moi, je crois, comme citoyen, je n'ai aucun casier judiciaire. J'ai toujours été un bon citoyen, mais je suis rendu au point où je suis prêt à désobéir. Je vais aller leur dire clairement, sans dire que je vais faire ces actions-là, mais voilà ce qui va arriver. Puis je suis un romancier, je peux prévoir des choses.
Alors, comme c'est enregistré, on va envoyer ça au Québec pour que le gouvernement québécois se prépare à ce que
Jacques... Ils sont avisés.
À ce que Jacques désobéisse.
Vous vous inscrivez vraiment dans... On a l'impression enfin, on pense à Henri David Thoreau pour la désobéissance civile.
Je l'adore. Ouais. C'est un philosophe que j'admire.
Philosophe...
Et j'aime la forêt. Il y a beaucoup d'écrits, la forêt. Moi, j'aime vivre aussi. Je passe beaucoup de temps dans le bois, là, depuis... quelques années, et j'adore Thoreau. Oui.
Mais il y a des scènes dans Le Rouge Idéal qui se passent aussi dans la nature, dans les bois, il y a la chasse aussi.
Oui, exactement. Ben, il y a un chapitre dans Le Rouge Idéal, effectivement, mais ce qui est drôle de ce chapitre-là, c'est que je voulais décrire enfin la forêt. Je l'ai fait dans Le Chemin des Brumes, qui est un roman qui se passe entièrement dans la forêt québécoise, dans la réserve faunique des Laurentides. Moi, c'était un défi de faire un suspense dans une forêt, un garçon qui est perdu, qui est menacé par l'hostilité, parce que c'est sauvage, et c'est dur de survivre en forêt, puis il ne sait pas comment. Et il est menacé aussi par quelqu'un en plus. Donc, c'est l'idée que les enquêteurs doivent le trouver le plus rapidement possible. Et dans Le Rouge Idéal, c'est une scène mais complètement gratuite, la partie de chasse, mais les personnages se rencontrent. Pour moi, elle est importante, les personnages se rencontrent. Et souvent, dans les écoles, ça m'est arrivé une fois, les jeunes me demandent dans la salle, « Monsieur, quel est le chapitre que vous aimez le plus dans Le Rouge Idéal? » Je réponds, « Bien, c'est la partie de chasse. » J'adore. Et là, ils éclatent de rire. Et je ne suis pas paranoïaque. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi vous riez? Ils disent, « Bien, le professeur nous a dit, vu que c'est un très, très gros roman, que la partie de chasse n'est pas nécessaire à la compréhension du livre. » Et je dis, « Écoutez, elle a tort. » Je vais vous démontrer. Donc, oui, la nature va prendre de plus en plus de place dans mon travail d'écrivain.
Il y a un vrai engagement écolo chez vous, hein?
Ben, je l'ai toujours été d'une certaine manière, mais lorsqu'on veut nous passer, écoute, c'est quand même pas banal. C'est un oléoduc qui va traverser 800 km et il y a un ingénieur récemment de TransCanada qui s'est fait mettre dehors parce qu'il avait osé dire qu'il y a au moins 4000 raccordements qui ont été faits sur les pipelines, sur les oléoducs, qui sont à risque. C'est fait mettre dehors. Donc, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ce monstre-là traverser notre territoire. Et ça doit être là, présentement, c'est le combat de bien des groupes écologistes, mais il va falloir aussi passer de la parole aux actes. Parce que sinon, ils vont le passer. C'est la seule possibilité qui leur reste de passer leur sable bitumineux. Puis pourtant, le baril, présentement, pour être rentable, le baril de pétrole, là, un baril de sable bitumineux coûte 60 $ à produire. Et il coûte, présentement, le baril est à 45 $ donc il n'est pas du tout rentable. Donc, ce n'est pas un projet qui est porteur. On essaie de le faire comprendre avec tous les risques environnementaux que ça suppose. Traverser le fleuve avec un oléoduc, c'est très complexe. Et même les ingénieurs québécois leur ont dit, votre technique n'est pas bonne pour traverser des cours d'eau. Il faut la revoir. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et ça coûte plus cher, la technique que proposaient les ingénieurs québécois. Est beaucoup plus complexe, mais ils ne veulent pas payer. Ils veulent que ça soit le plus rentable. Parce qu'il reste à peu près 20... Il reste, pour l'énergie fossile, on s'entend, peut-être 35-40 ans possible. Donc, ils veulent nous le fourguer. Ils veulent nous le passer
à tout prix. C'est du court terme. C'est de la pensée à court terme. Et ça, c'est comme ça partout. Je veux dire, les dirigeants pensent à court terme. Parce qu'ils le savent, là. Ils le savent qu'à long terme, c'est ridicule ce qu'ils font. Ils sont pas cons, là. Ils savent très bien que ces énergies-là, comme tu dis, vont s'épuiser rapidement et tout ça. Mais à court terme, pour être élus, pour donner l'impression qu'économiquement, c'est bon, tout ça, ben, c'est le projet qu'ils vont faire. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est comme ça partout, là. La pensée à court terme.
Voilà, on voit dans vos romans, justement, cette idée, tout à l'heure, vous parliez des lobbies, vous parliez de petites puissances comme ça, concentrées, qui finalement écrasent complètement les possibilités de révolte de gens beaucoup plus nombreux. Et ça, on le voit d'une autre façon dans vos livres, hein, avec les puissants, tout puissants, puis les autres.
Bah, moi, dans Hell.com, ce que je voulais montrer, je voulais pas dire que je pense pas que tous les grands puissants de ce monde, que tous les grands riches de ce monde sont tous des pervers qui sont membres de sites comme ça. Là. Faut pas être simpliste comme ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ont tellement de puissance, ont tellement de pouvoir, qu'ils en viennent à se dire que les plaisirs normaux, je suis au-dessus de tout ça. Pourquoi je me distrairais de la même manière que mes voisins, que le peuple, alors que je suis au-dessus du peuple. Et je pense que certaines personnes, certaines grands... Il y a eu des scandales, hein, de gens très, très riches qui ont été pris dans des scandales sexuels à abracadabran, des choses complètement hallucinantes, où on se dit, mais comment ça se fait qu'ils font des trucs comme ça? Je ne me rappelle plus celui qui se déguisait en esclave sexuel, puis payait des filles qui étaient en Asie pour le fouetter et tout ça. Puis je pense que c'était je me rappelle plus.
L'ancien président de la FOCA. De la FOCA,
oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ça, en fait, c'est plus rigolo qu'autre chose, mais j'ai l'impression que quand je vois, dans le fond, des chefs de compagnie licencier des milliers de personnes d'un seul coup, pas parce qu'ils font pas d'argent, parce qu'ils en font pas assez. Hein, parce que c'est ça, à un moment donné, c'est pas « oui, on a fait assez d'argent, mais oui, on pourrait en faire plus ». Et je suis sûr que ces gens-là, en mettant ces gens-là dehors, c'est peut-être des très bons pères de famille, c'est peut-être des gens très gentils avec le... Mais ils sont déconnectés d'une réalité, le terre-à-terre, là, ils sont complètement déconnectés de cette réalité-là. Et pour moi, Hell.com voulait symboliser un peu ça. Le fait que si moi, je paye pour avoir le droit de torturer quelqu'un, si je paye pour avoir le droit de faire un safari humain, bon, des trucs comme ça, c'est parce que je peux me le permettre. Pourquoi pas? Si je peux me le permettre, pourquoi je ne le ferais pas? Et ça, je trouvais que c'était une question qui était intéressante. Bon, alors là, ça devient excessif dans mon roman, bien sûr. Je pense pas que toutes les puissances perverses du monde sont réunies en un seul groupe, mais je pense qu'à peu près tout ce que je dis dans le roman est possible quelque part.
Vérifiable.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'on peut penser au pire en ce moment, imaginer le pire qui peut se faire quelque part, et ça se produit quelque part. L'être humain, jusqu'à maintenant, ne nous a pas donné de raison de croire qu'il y a une limite. Avec toute l'histoire d'horreur qu'on a découverte, vous disiez tantôt la réalité dépasse la fiction. Moi, je crois que la réalité dépasse très, 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 très souvent la fiction. Il arrive souvent des histoires dans la vraie vie que je me dis, je ne pourrais pas faire un roman là-dessus parce que les gens vont dire, il n'y a aucune justification. La fiction a besoin d'être cohérente, a besoin de cohérence. Mais la réalité n'a pas besoin de cohérence. La réalité arrive. Si je fais une histoire dans laquelle mon personnage, le voleur, se sauve après un vol de banque et qu'il y a un piano qui lui tombe sur la tête parce qu'on déménage un piano, on va me dire, mais non, Patrick, c'est invraisemblable, c'est facile, bon, tu ne peux pas faire ça. Mais si dans la vraie vie, ça arrive, ben, les gens ne vont pas aller se mettre autour du piano et dire « Non, 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 recommence, c'est absurde. » Ben non, c'est arrivé. Puis il arrive des trucs, comme je me rappelle, il y a quelques années, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est en Allemagne, c'est en Europe. Il y a un type qui avait mis une annonce dans le journal qui disait « Homosexuel, cannibale, cherche partenaire. » Bon, alors, homosexuel, ça va, partenaire, ça va, cannibale, ça commence à être un peu étrange. Et évidemment, il y a eu des réponses, parce qu'il y a toutes sortes de fous dans le monde. Ouais. Et la police, le lendemain, les a retrouvés dans l'appartement de celui qui avait passé l'annonce. Et ce qu'ils en ont conclu, selon la découverte, c'est que les deux ont pris beaucoup de drogue. C'est la seule justification, et encore là. Et le type a dit à l'autre, donc tu es cannibale? Il a dit, oui, je suis cannibale. Comment peux-tu t'assurer de ça, en tout cas? Et il a dit, écoute, j'ai une suggestion à te faire. On va te couper le pénis. On va le faire cuire, on va le manger tous les deux. Et où que ça devient surréaliste, c'est que le type a dit « bonne idée ». Parce qu'ils ont découvert aucune trace de... En fait, ils ont découvert que le type était mort dans son assiette, à bout de sang. Il était couché sur la table, mort, pendant qu'il mangeait. La bouche pleine, non, c'est pas vrai. Mais il était mort et l'autre attendait tout simplement. Il avait terminé. Et je me suis dit, si j'écris une histoire là-dessus, si j'écris un roman qui raconte ça, je ne vois pas comment je vais réussir à justifier la psychologie de ce personnage-là qui a accepté de faire ça. Je ne vois pas comment. Mais dans la vraie vie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'explication. Mais le lecteur, il en veut une, par exemple. Le lecteur a besoin d'un semblant d'ordre, d'un semblant de cohérence. Alors moi, je mets de la cohérence dans la folie, dans les meurtres et tout ça, mais dans la vraie vie, parfois, il n'y en a pas. Et ça, c'est assez incroyable.
Ça vous est arrivé, Jacques Côté, quand vous faisiez vos recherches, de trouver des histoires et de vous dire « je ne peux pas exploiter ça dans la fiction » parce que c'est tout simplement...
Oui, il y en a plusieurs. Dans le livre qui va sortir pour l'histoire de la police scientifique au Québec, j'aurais voulu les écrire.
Alors, tu dois en voir de toutes les couleurs.
Oui,
là.
Mais c'est incroyable. C'est des chefs-d'œuvre, dans un sens, au plan criminel, des histoires incroyables. Mais aussi des questions, comme la série Villeneuve, Les cahiers noirs de l'aliéniste, porte sur la maladie mentale à la fin du 19e siècle. Alors oui, j'ai vu des cas tout à fait incroyables. Lorsque j'ai passé la semaine à l'hôpital Sainte-Anne à Paris pour documenter le premier roman, j'ai eu des cas à l'époque où le docteur Villeneuve était là comme jeune étudiant et je lisais ça et j'apprenais des choses absolument incroyables. Là. Et c'est là que tu vois l'importance de ces institutions-là, des individus qui avalaient des aiguilles. Des aiguilles. Quelqu'un, lui, ce qu'il faisait, c'est avaler des aiguilles. Un autre, une femme, c'est qu'elle s'était tuée lentement pendant plusieurs heures en s'enfonçant aussi une aiguille dans le cœur. Le fameux coupeur de natte aussi de Paris de 1889. Donc, j'ai documenté ces cas-là, mais en me disant aussi qu'il y a quelque chose de beau aussi dans cette période-là, parce que les aliénistes se sont dit « on va mieux traiter les patients, on va cesser la contention ». En 1889, Valentin Magnan dit « c'est fini la contention ». Et il faut les traiter avec le plus de douceur possible. Et c'est un changement radical, là. Et chez nous, ça va prendre... Villeneuve va le faire à Saint-Jean-de-Dieu, mais après, Saint-Jean-de-Dieu va devenir véritablement un enfer là, pour la maladie mentale. Il y a eu un âge d'or avec Georges Villeneuve, mais après, tu en as entendu parler, les lobotomies, toutes sortes d'expériences bizarres. Et puis, moi, je trouve ça, quand on parle de moments là, d'optimisme, là, lorsque je lis ce qu'on faisait à cette époque-là, l'idée de soigner, d'être le plus doux possible. Et lorsque l'aliéniste même devient thérapeutique, lorsqu'il rentre dans une salle, lorsque les patients le voient, puis se sentent déjà mieux, qu'ils se sentent moins agités, je me dis, mais c'est extraordinaire parce que il le disait, la pire maladie, le pire drame qui peut t'arriver, c'est d'avoir des problèmes de santé mentale graves où tu n'es plus en contrôle de toi-même, tu n'as plus le contrôle. D'où aussi la nécessité, lorsqu'il y a des crimes, d'avoir des experts qui sont en mesure de dire est-ce que c'est un simulateur ou non. Est-ce qu'il était responsable de ses actes lorsqu'il a commis ce meurtre ou ces meurtres? Et c'est quand même beau aujourd'hui que la justice puisse arriver à dire, puis de moins en moins maintenant, là, parce qu'on veut des coupables rapidement, le plus vite possible. Et je suis sûr que Villeneuve, dans certains cas, aurait été fâché parce que lui, il donnait la chance aussi à la responsabilité criminelle. Plusieurs cas que j'ai évalués, que j'ai pu lire, où... il savait que la personne simulait ou non. Puis quand la personne ne simulait pas, les gens voulaient pendre tout de suite. Tu avais la foule qui était très pressée de pendre, alors que lui, il disait non, c'est quelqu'un qui est véritablement malade, là, qui n'était pas du tout responsable, n'était pas du tout conscient de ce qu'il faisait. Puis il le fait parce qu'il devait le faire, mais sans en être responsable. Et c'est dur de faire accepter ça. Encore aujourd'hui, dans un jury, c'est difficile. C'est difficile parce que les gens, ils veulent rapidement un coupable. C'est aussi la vengeance collective. Et je peux comprendre, dans certains cas, on est fâché, des gens vont commettre des crimes atroces en étant responsable de leur cas. Puis on souhaite, on a hâte au procès, puis on souhaite une peine sévère. Souvent, on peut être aussi déçu que la peine... Oui, la peine n'est pas aussi sévère que prévu. Mais je la trouve belle, cette médecine-là. C'est une médecine qui m'inspire. C'est une vieille médecine, là. Il y a plus de 100 ans.
Oui. Puis c'est intéressant que tu dises que la foule, les gens veulent des coupables. Ça, je crois que c'est vrai. Puis je pense que ça explique beaucoup de dérives. Par exemple, quand à Columbine, aux États-Unis, là, il y a 15 ou 20 ans, les deux jeunes qui étaient entrés dans l'école, qui avaient mitraillé. Et ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup dans mes romans. Cette espèce on avait trouvé rapidement que ces jeunes-là avaient écouté le film The Matrix une dizaine de fois dans la semaine. Bon. Et là, l'opinion publique a dit. Et ils s'étaient déguisés un peu comme les personnages dans The Matrix. Ils avaient mis des longs manteaux noirs, etc. Et là, la foule a dit ah, voilà! Voilà, le responsable, c'est The Matrix, c'est le cinéma. Alors, et c'est absurde, combien de gens ont vu The Matrix dans le monde? Des millions, des millions, des millions. Combien en sont devenus fous? Deux. Donc, manifestement, le problème est ailleurs que dans le film. Sauf que la population est rassurée de penser que c'est la faute d'un film. Parce que s'ils ne trouvent pas de coupable, s'ils ne trouvent pas de responsable, ben la responsabilité, c'est qui? C'est tout le monde. C'est la société qui a formé ces jeunes-là. C'est comment ça se fait qu'on forme des jeunes comme ça? Comment ça se fait que de notre civilisation, pourtant supposément... civilisé, c'est le cas de le dire, comment c'est que deux jeunes en viennent à faire ça? Et c'est un miroir qui peut être extrêmement troublant comme société.
Si on ne voulait pas assumer une responsabilité.
Ben, c'est ça, voilà. Alors, mais là, si on met ça sur la faute d'un film, ah, ben voilà, on peut s'en laver les mains et tout va bien. Et ça, je pense que oui, on veut trouver des... Et moi, je pense, comme Jacques dit, que n'importe quel tueur, n'importe quel malade, c'est un être humain avant tout qui a un désordre mental ou alors qui est arrivé un événement qui a complètement disjoncté un court moment. Moi, je pense que personne n'est à l'abri de poser un acte terrible dans sa vie. Je pense qu'on n'est pas à l'abri, personne ici qui nous arrive. On a tous un talon d'Achille. Il y en a que c'est si on fait mal à leur enfant. Il y en a, c'est si il perd son emploi. C'est si... Bon, peu importe. Mais je pense qu'on a tous un moment où il est possible, si on va dans... Si quelqu'un vient jouer dans telle zone où qu'on peut... snapper, où on peut péter un plomb. Et de se croire, quand les bien-pensants, j'aime bien dénoncer les bien-pensants, quand les bien-pensants se pensent à l'abri de tout ça, ils regardent de loin en disant... il est arrivé au Québec, là, une chose atroce, c'est arrivé un peu... c'est pas juste arrivé au Québec, mais dernièrement, il y a un père de famille qui a oublié son enfant dans la voiture. Donc, il a oublié de le mener à la garderie. Et l'enfant a passé la journée dans la voiture à 40 degrés, il est mort. Quand le père est retourné dans la voiture, l'enfant avait littéralement cuit dans la voiture, son enfant de 1 an à peu près. C'est une histoire atroce, là. Et il y a plein de gens sur les tribunes publiques qui ont dit... Ce père-là, c'est, comment il a fait ça? Il faut être monstrueux pour oublier. Puis aucune compassion pour cet homme qui, pourtant, va être en prison dans sa tête le restant de ses jours. Là. Cet homme-là, je ne sais pas comment il fait pour vivre, mais il y a comme les gens se disent, ce n'est pas possible qu'il ait oublié ça, donc c'est un monstre. Parce que si on accepte qu'il a vraiment oublié son enfant, ça veut dire que ça peut tous nous arriver.
Et lui, c'était
et ça, on veut pas ça. On veut pas ça.
Et ça arrive, c'était la deuxième fois en 3 ans que ça arrive au Québec, mais c'est peut-être...
Oui. Ah oui, ben c'est ça. Oui, il y a un journaliste américain qui a fait un article où il dit « Attention, ça arrive partout dans le monde, ça. Ça arrive partout. Il y a des gens, pas juste des gens imbéciles, là, des gens intelligents. Là. Ça n'a rien à voir avec être idiot, égoïste ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais de l'accuser, c'est une façon de se rassurer, de se dire « Ça ne peut pas nous arriver. » Alors que si on accepte que oui, ça peut arriver à tout le monde, ça, c'est confrontant.
Et justement, pour en revenir au texte, c'est intéressant. On sent que vous êtes conscient des injonctions du lecteur qui veut finalement qu'on lui donne quelque chose. Et dans Le Vide, vous dites, j'écris cette histoire dans le désordre. Voilà, il y a une construction un peu particulière.
Ouais, tous les chapitres
et
sont désordonnés.
Il faut le lire dans l'ordre et il faut aussi accepter le fait qu'il y a des flashbacks et qu'il faut... Voilà. En fait, et c'est intéressant, cette liberté d'auteur de refuser justement de se plier à une règle.
Mais oui, en fait, il est écrit dans le désordre. Il faut le lire dans l'ordre du livre, mais dans le désordre des chapitres. Et les chapitres sont numérotés. Et ça, c'est très curieux parce que comme les chapitres sont numérotés, mais dans le désordre, je pense que le premier chapitre, c'est 21, après ça, 8, après ça, 12. Après, il y a des gens qui ont été très perplexes quand ils ont acheté le livre, ils se sont mis à aller les chapitres dans l'ordre. Alors, ils allaient chercher le chapitre 1, après ça le chapitre 2, après ça le chapitre 3. Et là, je leur disais, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas un livre dont vous êtes le héros, là. Je dis, j'ai pas mis les chapitres dans le désordre pour vous faire chier, là. J'ai pas dit, bon, pourquoi il a fait ça, l'auteur? Il m'emmerde, là. Pourquoi qu'il... Bon. Alors, évidemment, s'il est publié comme ça, c'est parce qu'il faut le lire comme ça. Mais si j'avais pas mis les numéros de chapitre, les gens l'auraient lu et auraient compris tout de suite que c'est des flashbacks. Tout simplement. Mais la raison de ça, c'est pas juste une raison stylistique, là. C'est pas juste pour impressionner la galerie. C'est qu'honnêtement, si on le lit dans l'ordre des chapitres, le suspense fonctionne plus. Il y a des trucs qui fonctionnent plus parce que les 20 premiers chapitres, c'est toute la mise en branle du plan du personnage, je dirais pas lequel. Et les 20 autres chapitres, c'est l'enquête policière. Donc, j'alterne entre le policier qui fait son enquête et à chaque fois qu'il découvre quelque chose, j'ai un flashback qui montre à quoi cette découverte-là est liée. En même temps, le défi aussi, c'était de ne pas rendre ça incompréhensible pour le lecteur. Alors, je veux bien que ce soit dans le désordre, mais si le lecteur, après 4 chapitres, dit « je comprends rien, je suis perdu », c'est pas intéressant non plus. Donc, ça, c'était... Il y avait un beau défi là. Puis, je l'ai écrit dans le désordre en plus. Ça, c'est un peu fou. J'ai fait le plan dans l'ordre, mais après, j'ai découpé le plan en morceaux. Je l'ai collé dans un ordre que je croyais intéressant et je l'ai écrit dans cet ordre-là. Et là, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu l'as écrit dans le désordre? Tu aurais pu l'écrire dans l'ordre et après ça, te promener avec le logiciel et tout ça. Mais moi, j'aime, quand j'écris, j'aime savoir où mon lecteur est rendu dans sa lecture. Ça me permet de manipuler ses émotions, de jouer avec lui. Alors, le seul moyen, c'était de l'écrire dans le désordre. Mais ça a été épouvantable. Ça a été vraiment difficile, mais. Mais bon, je pense que ça vaut la peine. Là. Ça fait partie du roman, effectivement. Donc, s'il y en a qui se sont intéressés, lisez-le dans le désordre.
C'est pas une erreur d'impression.
Non, c'est pas. Vous avez une bonne copie.
Il ne faut
là.
Pas suivre les numéros de chapitre.
Non, il faut suivre les pages, comme n'importe quel livre. Oui, c'est ça.
Jacques Côté, est-ce que vous avez aussi, vous, des techniques d'écriture comme ça? Est-ce que vous... Parce que vous avez en plus écrit des séries de romans, donc c'est encore, encore différent. Vous laissez vos personnages, vous parliez du personnage de Louis, on a déjà eu un entretien ensemble, le personnage de Louis qui est, je trouve, très intéressant dans vos policiers des années 70, et qui justement, lui, est laissé presque pour mort ou blessé, et qui va revenir ensuite. Et vous me disiez que ça vous était pas venu tout de suite, que c'était une demande.
C'est étrange, après, quand j'ai écrit mon premier roman policier, ben, je savais que ça existait, les séries, mais je ne me suis pas dit « je vais faire une série policière ». J'ai arrêté après le premier, puis j'ai fait autre chose. Et puis, dont le Wilfrid de Rome, justement, j'étais dans ça. Et pendant longtemps, dans les salons du livre, les lecteurs, et même dans la rue, quand je faisais mon jogging dans ma ville, où j'étais pas très connu à ce moment-là, mais c'était arrivé qu'une fille, avec une jeune maman, m'arrête pour me poser des questions, mais les mêmes questions qu'on m'a posées dans le salon du livre, mais là, ça se passait dans la rue. Et puis, elle voulait savoir, et le bébé était là, ne pleurait pas. Puis, on a discuté. Elle voulait savoir, mais qu'est-ce qui arrive avec votre personnage à la fin du roman? Louis, là, vous voulez parler? Oui, Louis, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il est sur un lit d'hôpital, tout simplement. Et puis, il est dans le coma. Puis, oui, mais est-ce qu'il va mourir? On ne sait pas. Je dis, ben, il est toujours vivant. Quand on tourne la dernière page, je ne peux pas vous dire s'il va mourir. Tiens, oui, mais si vous aviez à faire un autre roman, est-ce que le personnage vivrait? Elle s'était vraiment attachée au personnage. Ça m'a surpris, l'attachement de certains lecteurs, surtout, je dirais, lectrices, là, sans être sexiste, pour deux des personnages. Moi, ça m'a vraiment étonné. Et comme je dis hier, à la fin d'une rencontre dans une librairie, et ça, je te jure, deux libraires. Une qui est très gênée, elle n'ose pas poser la question, elle est quasiment amenée de force par son amie. Elle dit elle aimerait vraiment rencontrer, si c'est possible, le lieutenant Duval. Est-ce que c'est possible? J'écoute, il va falloir qu'elle vienne dans ma tête parce qu'il n'existe que là. Tu comprends? Et puis, j'ai été étonné de voir, parce que je me suis attaché à des personnages dans la littérature, mais pour moi, je savais que c'était de la fiction, c'est des personnages inventés, mais certains osent fantasmer parfois des lecteurs au point de croire que ce personnage-là ne peut qu'exister. Et il doit exister quelque part. Et s'il vous plaît, est-ce que je pourrais le rencontrer? Mais non, malheureusement, ça ne sera pas possible. Enfin, pas cette fois-ci, là. Et ça, c'est étonnant. Mais c'est certain que c'est stimulant. Quand tu reprends ensuite, tu remets ton personnage, parce qu'il est revenu dans un deuxième roman, dans Le Rouge idéal. Ben ça, c'était plus difficile, là, parce que, écoute, j'ai laissé vraiment mal en point, là. Et parfois, j'ai fait des erreurs, comme dans le roman, dans le quartier des agités, à la fin, je me suis dit, 6 mois après, mais pourquoi j'ai pas gardé le personnage du chanteur de l'opéra au lieu de le tuer? Il aurait dû revenir à New York, près de Saint-Jean-de-Dieu, où Georges Genève allait étudier, et puis j'aurais pu faire une nouvelle confrontation.
Trop tard.
Effectivement, mais... Je cherche encore, puis tu pourrais m'aider, OK?
Un moyen.
Oui, je cherche.
Hollywood est bon là-dedans, hein? Ils font des clones, ils font toutes sortes de conneries là, pour ramener...
Je cherche quelque chose de mieux.
Mais c'est vrai que les personnages, les lecteurs peuvent s'attacher aux personnages au point que moi le plaisir malsain que j'ai, c'est quand quelqu'un me dit « Vous avez fait mourir tel personnage, vous n'avez pas le droit, c'est terrible, vous n'avez pas de cœur, comment ça se fait que cette personne-là meure? » Moi, ça me fait rire, je suis content parce que je me dis, ben, quelque part, ils ont vraiment aimé ce personnage-là. Alors, mais oui, moi, j'ai pas de cœur là-dessus. Là. Moi, je peux faire mourir, personne n'est à l'abri. Je suis un peu comme Game of Thrones, vous savez, la série Game of Thrones, tout le monde peut mourir hein, dans Game of Thrones, on ne sait jamais qui peut mourir.
C'est rassurant.
Mais mes romans, c'est un peu ça. Là. Dès le début, attachez-vous à personne parce que...
On ne sait pas trop.
Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Ça, c'est la logique de l'histoire qui va être cohérent, en fait.
Mais même notre éditeur, Jean, à chaque fois, il dit, écoute, Jacques, là, parce que là, dans le dernier... La série, ma première série, 5 ou 6 tomes, là, le 5e va sortir, mais il dit Jacques, il y a encore des doutes là, sur la survie de l'enquêteur à la fin. Il dit, il faut que tu clarifies ça. Soit que c'est vraiment le dernier, puis tu construis ton livre pour que le lecteur n'ait plus d'espoir d'en avoir un 6e, ou que tu laisses une porte ouverte. J'ai dû refaire toute la fin. Toute la fin. Il m'a demandé de refaire la fin.
Parce que là, il trouvait que ça devenait insistant, peut-être, de finir comme ça.
Oui, bien, il dit, j'aimerais que tu en fasses... Il dit 5, c'est pas un beau chiffre. Écoute, il m'a donné cet argument-là. Il dit 5, c'est pas un beau chiffre. Il faut que tu en fasses 6. J'ai dit, mais on arrête à 6 après. Là,
ce qui est temps d'annoncer, c'est que quand il va avoir fini, le personnage va mourir. C'est un peu ça que je... C'est un peu ça que je comprends.
Oui, mais ben, il va mourir, effectivement, de sa mort littéraire.
C'est ça.
On va bientôt arriver. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour les auteurs présents?
Je voudrais savoir le nom de votre
Ben, la série historique, c'est Les Cahiers noirs de l'aliéniste, celle qui se passe à la fin du 19e siècle, inspirée par le médecin québécois. Et l'autre série se passe au tournant des années 1970 et 80 avec deux enquêteurs, Daniel Duval et Louis Harel. Et cette série se passe dans la ville de Québec, sauf le dernier, dans la réserve faunique des Laurentides, donc un roman de bois, de forêt.
Pas de titre, la série.
C'est la série Daniel Duval. On l'appelle Daniel Duval. Ouais.
Là, votre éditeur français.
J'ai pas d'éditeur français.
Ah, d'accord. Vous êtes
en français, c'est à lire, ouais.
C'est à lire.
Ils sont distribués. Voilà. Mais, ouais.
Moi, je me demandais s'il y avait une autre. Parce qu'on ne m'a pas envoyé le dernier, je vous avais dit, l'alieniste.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Mais. C'est à lire, on peut les trouver.
Ce sont des choses qui arrivent.
On peut les trouver sur vos stands.
Oui, on les a tous.
Je ne sais pas aujourd'hui. Si vous allez de nouveau signer.
Oui, on retourne au stand.
Donc, vous pouvez retrouver. Ouais. Voilà, vous pouvez retrouver les deux auteurs.
Là où la vue est la plus belle, sur le Mont Blanc. Vraiment, on nous a gâtés. Oui. Hein.
Dans le.
En signant avec le Mont Blanc devant nous.
Pas un Mont Blanc, là, mais.
Ouais, non, on ne signait pas avec un Mont Blanc. Donc.
Et alors, pour la suite des événements. Qu'est-ce qu'on attend là? Bon, on a justement, j'en profite aussi pour redonner vos titres. Hein, Elle.com, c'est le dernier. Hein, Patrick Sénécal, Au fleuve noir. Et Le vide, l'avant-dernier, donc sur la télé-réalité. Voilà, et ça, c'est sur ce fameux site interdit, très cher et complètement horrible, que vous pouvez aussi trouver sur son. Vous pouvez trouver leurs ouvrages sur leur stand. Est-ce qu'il va y avoir une prochaine sortie?
Il y a un roman qui sort au Québec, en tout cas. Il y a un roman qui sort début novembre. Il y a des projets aussi. Il y a eu 3 films sur mes livres au Québec. Mmh. Et là, il y a un projet pour Hell.com de films. Mais au Québec, les projets, c'est très, très, très compliqué. Et le producteur est un peu au désespoir. Il dit, on ne pourra pas tout mettre là-dedans, Patrick. On ne pourra pas tout mettre dans le film. Ça n'a aucun sens. Fait que là, on cherche des moyens de faire le film un peu moins, un peu moins trash. Mais immédiatement, là, c'est un nouveau roman qui sort dans 2 mois qui s'appelle L'autre reflet.
Ouais. L'autre reflet. Ouais. Et Jacques Côté?
Oui, ben, il y a Le chemin des brumes. Ça fait 5 ans qu'il y a un producteur, un scénariste et puis un réalisateur qui travaille dessus. C'est long, faire un film au Québec. 5 mm-hmm. ans, là. Et puis, ils ont fait le premier dépôt à la SODEC. Là. C'est le premier dépôt qu'ils ont fait. C'est long. Sinon, un roman qui va sortir en janvier, le 5e de la série. Je vais revenir à Lausanne. Il va y avoir un festival de romans policiers, de littérature policière à Lausanne. Lausanne Noire en novembre. Donc, je vais venir.
En novembre.
Et puis, on va peut-être revenir à Genève, parce que le Salon de Genève, cette année, en 2017, pardon, va être consacré au Québec. Il va y avoir beaucoup d'auteurs québécois.
Le pays invité, c'est le Québec, donc ouais. On va peut-être être 20, 25 auteurs, peut-être 30. Ouais. On va prendre Genève d'assaut.
Je vois que la salle est enthousiaste. Je crois qu'on a beaucoup
aimé. Littéralement, ce qui va arriver.
Vous avez donné une bonne image des auteurs québécois. Je crois qu'on a très envie de lire.
Oui, puis les Québécois sont réputés. On aime la fête. Hein. On aime la fête. On aime rigoler. On aime. Alors, on va avoir du fun, comme on dit chez nous.
Même si vous écrivez des romans, quand même.
Mais vous savez que la plupart des auteurs de polar que je connais, même européens, là, les auteurs de romans noirs, c'est des gens dans la vraie vie qui aiment beaucoup rigoler, qui aiment beaucoup être relax. Parce que je pense qu'on. On se défoule dans nos romans, on met le pire de nous dans les romans et après ça, on a goût de.
On rit tout le temps, c'est vrai.
On a goût d'avoir du plaisir, c'est ça.
Ouais. Finalement, c'est une excellente thérapie, le
tout fait
d'écrire.
Je crois. Oui.
Moi, ma blonde est psychologue et c'est ce qu'elle me dit. Elle dit arrête pas d'écrire, arrête pas d'écrire. Tant que t'écris, tout va bien.
Donc, faites tous du roman noir si ça vous intéresse. C'est thérapeutique.
Vous lisez des romans noirs.
Oui, ça peut avoir le même effet.
Voilà, ça peut avoir le même effet, finalement. On n'est toujours pas arrivé. Alors, qu'est-ce que. Pas d'autres questions dans la. C'est pas. Voilà, une question.
Justement, vous parliez Québec, Canada. Je crois ça, en tout cas, Patrick, tu n'as jamais été traduit en anglais.
J'ai un roman qui a été traduit au Canada anglais dans une petite maison d'édition qui a fermé en plus depuis. Alors,
Et puis, toi, c'est de ma faute.
Non, ben, moi, présentement, j'ai une traduction qui est en train de se faire. Je suis chanceux. Ben, c'est le Wilfrid de Rome. Et c'est une biochimiste qui connaît très, très bien le monde de la science. Une fille originaire de Toronto, mais qui vit à Montréal depuis plusieurs années. Et elle a admiré le docteur de Rome et elle a décidé de faire la traduction. Et puis, il y a un éditeur de Toronto. On ne sait pas quand. Ça aussi, c'est long, les traductions. Là.
Ouais.
Fait qu'on attend, mais je reçois chaque mois au moins 2 chapitres. Elle est vraiment régulière. Enfin, super travail. Donc,
Parce qu'être traduit, en anglais aux États-Unis, c'est très, très, très difficile. Tout le monde veut être traduit aux États-Unis en anglais, évidemment. Moi, je traduis en quelques langues. Je traduis en polonais, je traduis en turc, en italien. Mais aux États-Unis, non, c'est très, très difficile parce qu'ils reçoivent des milliers de demandes tout le temps. Le marché américain, hein, c'est le marché du rêve, bon, tout ça. Alors, c'est pas évident. Mais bon, ça m'empêche pas de dormir. J'ai pas besoin de ça là, pour me sentir un écrivain accompli. Ça va très bien au Québec, je suis très content au Québec. Bon, si ça va bien en Europe avec les deux livres, tant mieux, je suis très content. Mais moi, d'être de comment dire, le lectorat que j'ai en ce moment, si je meurs avec ce lectorat-là, je vais être très, très heureux. Ça n'empêche pas que si les Européens veulent me lire aussi, je vais très bien vivre avec ça aussi. Là. Mais il y a des écrivains qui viennent vivre en Europe pendant des mois pour conquérir un public ou qui vont aller apprendre l'anglais pour aller courtiser. Moi, j'ai pas besoin de ça à ce point-là. Là. Je suis bien chez nous, je suis bien au Québec, je suis bien dans ma ville, je suis bien à Montréal. Puis bon, s'il y a des opportunités qui s'ouvrent, tant mieux. Mais je vais pas mettre tous mes efforts là-dessus. Je vais mettre mes efforts pour écrire mon prochain roman.
C'est toujours ça. Bien d'avoir des attentes aussi mesurées. Là. Moi, je suis un peu comme toi là-dessus. Et notre éditeur, depuis plusieurs années, en Suisse notamment, avant que nous, on vienne... Louise Alain, qui s'occupe de la mise en marché, des communications, du marketing, elle venait à Genève, puis elle dit « Hey, il y a vraiment une réception incroyable pour vos livres, les gens reviennent, puis les gars, il va falloir que vous veniez à Genève rencontrer vos lecteurs, vous allez voir, là, vous commencez à voir des... » Puis effectivement, là, c'est quoi...
Mais toi, t'es venu il y a 2 ans?
Oui.
Puis je le remarque, là, je vois plein de lecteurs qui viennent le voir depuis 2 jours, qui l'ont rencontré il y a 2 ans. Mm-hmm. Fait qu'il y a un suivi, c'est vraiment cool.
Le travail sur le terrain est très intéressant parce qu'on rencontre nos lecteurs, on les reconnaît même. « Ah oui, je t'ai rencontré premier salon, deuxième. » On ne sait pas les noms, mais des fois, on se rappelle. « Ah oui, toi, tu fais tel métier, je t'ai rencontré. » Et c'est bien, donc, il y a un rapprochement des francophonies. Et justement, cette année, à Québec, il va y avoir un échange Genève, des auteurs de Genève et des auteurs québécois. Et j'ai rencontré, je participais à cet échange-là, j'ai rencontré Mme Isabelle Falconi du Salon du livre et de la presse de Genève. Et puis, elle m'a dit, moi, j'aimerais qu'on se parle de voir les lendemains. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de permanent, une structure qui permettrait que l'échange puisse exister un certain temps, que les auteurs de Genève puissent avoir une place dans vos librairies à Québec et les nôtres et les vôtres aussi ici à Genève. Et on a parlé d'idée d'un corridor littéraire qui permettrait des échanges entre nos auteurs parce que ce qu'on aime beaucoup lorsqu'on vient en Suisse, c'est aussi il y a un rapport de proximité. On est bien perçu, les gens aiment ce qu'on fait. On rigole pas trop de notre accent, ce qui est quand même pas si mal. On nous rappelle toujours notre accent, mais ici, ça a l'air de très, très bien passer, là, l'accent. Et donc, pour ça, c'est bien. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait des rapprochements entre la francophonie. Surtout que c'est le marché québécois, 6 millions, 7 millions de lecteurs francophones. Pour nous autres, c'est pas évident. Là. On souhaiterait, comme Patrick dit, c'était les États-Unis, ça serait autre chose. Mais de pouvoir se rapprocher de la Suisse, de la France, éventuellement un peu plus. Même si à Lyon, on voit à Lyon, il y a eu un engouement aussi cette année pour ce qu'on faisait.
On a un petit marché, il ne faut pas se faire d'accroire. Là. Ouais. 7 millions, c'est quand même pas beaucoup de gens là, au Québec. Là.
Et 300 000 francophones en Suisse, ça vaut au moins 1 million de Québécois. Parce que pour la lecture, je vous dirais, là, je ne veux pas diminuer les Québécois, mais on ne lit pas beaucoup. Les garçons lisent très peu. On le voit dans les salons. C'est un lectorat très souvent
très, féminin. Très féminin.
Là, très féminin. Et on est content de faire des liens. Puis j'espère que pour les auteurs suisses, ça pourra dire peut-être des coéditions éventuellement. On en parle, là, mais c'est toujours délicat. Les éditeurs sont peu peureux, frileux de changer leurs habitudes. Là, mais il y a des belles ouvertures qui viennent justement de Genève cette année. Là. Enfin, on est très heureux.
C'est incroyable que vous soyez plus lu en Suisse que au Canada anglophone.
Ouais, mais ils lisent pas en français.
Oui,
mais ils lisent pas en français.
Oui,
mais le Canada et le Québec,
drôle, parce
c'est deux
c'est
pays.
À des milliers
on va
de kilomètres.
Pas partir là-dessus. Là,
ils veulent pas traduire nos
c'est
livres.
C'est deux solitudes.
Aussi,
on dit que c'est deux solitudes. Le Canada anglais a aucune idée de ce qu'on fait et on a aucune idée de ce qu'ils font.
Et les Américains sont plus près de nous.
Et ce qui est triste, c'est qu'on s'en fout un peu.
Oui, c'est vrai.
C'est pas drôle, là, mais c'est un peu ça. Ça vous montre à quel point c'est. On n'est vraiment pas connectés. Alors, quand les politiciens vous disent, viennent dans les pays ici, ils disent le Canada, un grand pays bilingue, tout ça, c'est n'importe quoi.
C'est la bullshit.
C'est n'importe quoi. Si vous sortez du Québec, à peu près personne ne parle en français au Canada. Non, à peu près personne.
Même la ville d'Ottawa, qui devait être officiellement bilingue, n'est même pas officiellement bilingue dans sa loi. Mais alors qu'elle doit incarner le bilinguisme au Canada, elle n'est même pas officiellement bilingue. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure à la dame ontarienne, elle ne me croyait pas. J'ai retourné voir dans votre législation.
Ouais.
Elle n'est pas officiellement bilingue.
Alors ne croyez pas nos politiciens qui viennent vous dire le grand Canada, pays uni, où tout va bien entre les deux, entre le Québec et le reste du Canada, c'est faux. C'est faux.
Mmh. Ouais, bon, on va terminer là-dessus. Je vous remercie encore tous les deux. Merci à vous pour votre attention.
Merci.
Et puis merci encore Patrick Sénégal et Jacques Côté pour cette discussion instructive sur le...
Merci.